Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal. Gisèle Cage à la présentation.
Bonsoir à toutes et à tous. Quel bonheur de vous retrouver aussi nombreux pour cette nouvelle édition du journal sur Radio Kapi. Sans plus tarder, voici les titres. Exploration minière. Le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metals signent un accord de principe. L'entreprise s'engage à investir dans la numérisation des données géologiques, l'exploitation minière assistée par l'intelligence artificielle et le développement des projets liés au lithium. Kinshasa, le Tenasop s'achève sans incident. Le candidat a jugé le preuve abordable. De son côté, la ministre de l'Éducation a invité les parents à accompagner leurs enfants dans leur orientation après le cycle de base. Aux filles enceintes à l'école, le ministère de l'Éducation nationale autorise désormais les élèves enceintes à poursuivre leur scolarité. Une décision saluée par certains, mais vivement critiquée par d'autres, dont le professeur Roland Vélé Mukelenge, notre invité dans ce journal. Restez à l'écoute, l'entretien arrive dans un instant. À la une aujourd'hui, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé ce jeudi à la Cité de l'Union africaine une cérémonie marquante, la signature d'un accord de principe entre le gouvernement congolais et la société américaine Cobalt Metals. Ce document a été paraphé par le ministre de Mines, Kizito Pakabomba, et le directeur général des Cobalt Metals en RDC, Benjamin Katabuka. Cet accord ouvre la voie à une collaboration ambitieuse dans le domaine de l'exploration minière avec pour objectif d'attirer des investissements américains dans un secteur clé pour l'avenir du pays. Les précisions avec Grace Hamzati.
Le directeur général des Cobalt Metals en RDC explique que cet accord s'inscrit dans le cadre des accords entre les États-Unis d'Amérique et la RDC pour la paix et la prospérité. Nous espérons que cette porte qui est ouverte par le gouvernement congolais pour les investissements américains va nous conduire à d'autres investissements des USA en RDC, déclare Benjamin Katabuka. Selon lui, l'accord signé va s'exécuter en trois volets essentiels. L'entreprise s'engage à venir investir au Congo dans la numérisation des données géologiques, l'exploitation en utilisant la technologie assez avancée, notamment l'intelligence artificielle, et le développement minier des projets de lithium qui se situent à Manono dans la province du Tanganyika. Il indique que la RDC a énormément de données géologiques qui ne sont pas exploitées pour l'intérêt du pays. Benjamin Katabuka fait savoir que Cobalt Metals veut venir financer la numérisation des dites données afin de les rendre accessibles à tout le monde pour attirer les investissements au Congo dans les secteurs miniers. Il affirme que l'objectif des Cobalt Metals est d'engager plus de Congolais, de les former, de les rémunérer et de participer aussi à la construction des infrastructures pour le bien-être de la population.
Depuis plusieurs semaines, la République démocratique du Congo est engagée dans deux dynamiques diplomatiques parallèles menées à des milliers de kilomètres l'une de l'autre, mais poursuivant un objectif commun, restaurer la paix dans l'est du pays et jeter les bases d'un processus politique durable. Ces échanges visent à renforcer la coopération bilatérale ainsi que le mécanisme de collaboration conjointe. Les enjeux de ce rencontre avec vous, Jean Gandou.
À Doha, le processus est conduit sous la médiation du Qatar avec l'appui des États-Unis. Massad Boulos, envoyé spécial américain, poursuit sur place ses consultations pour faire avancer les discussions entre la RDC et le Rwanda en prélude de la signature définitive de l'accord à Washington en présence des présidents Trump, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. En parallèle, des pourparlers se poursuivent entre le gouvernement congolais et les représentants de l'AFC M23 en vue d'une déclaration des principes menant à un accord de paix. Pendant ce temps, à Kinshasa, la diplomatie bilatérale s'active également. La vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yambakazadi, a reçu hier jeudi 17 juillet le chargé d'affaires de l'Émirat du Qatar en RDC. Les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre les deux pays. Sur un autre front, la société civile congolaise appelle à une médiation africaine unifiée, inclusive et légitime. Un message porté jeudi à Kinshasa lors d'une rencontre avec Catherine Samba-Panza et Salewo Kozeude, deux anciennes chefs d'État africaines engagées dans le panel de facilitation pour la paix en RDC. Entre diplomatie régionale, internationale et mobilisation de la société civile, les efforts convergent vers une même ambition, faire taire les armes et reconstruire une paix durable en République démocratique du Congo.
Direction l'Ituri, des affrontements sont en cours ce matin à Tchomia, dans les territoires de Djougou. Des tirs nourris, armes lourdes et légères résonnent dans la région depuis l'aube. Selon des sources sécuritaires, il s'agit des combats entre FARDC et les miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, un groupe armé dirigé par Thomas Lubanga. Des affrontements se concentrent autour des villages de Nyamamba et Mbongi, en bordure du lac Albert. Et déjà, de violences provoquent des mouvements des populations. Des habitants fuient les zones touchées, cherchant refuge loin des combats. Les précisions avec Marissal Kiza Biamongo.
C'est vers 5h locale que des miliciens de la Convention pour la Révolution Populaire, CRP en divagation, ont attaqué la position de la force navale de FARDC à Nyamamba. Des sources sécuritaires rapportent que l'objectif, c'était de se ravitailler en armes et munitions. Et s'en est suivi un échange de tirs et d'une demi-heure qui a permis aux FARDC de repousser l'ennemi. Dans leur fuite, ces hors-la-loi ont attaqué de nouveau une position des FARDC au village d'Mbogi. Ici aussi, l'armée a mis les assaillants à déroute. Aucun bilan de ces combats n'est disponible à ce stade. Cependant, des sources locales indiquent que plusieurs habitants de ces deux villages se sont déplacés vers les endroits les plus sécurisés, notamment à Tchomia et ses environs. Bounia, Martial Kizbiamongo, Radio Okapi.
Territoire de Beni, dans le quartier Congo Yasika, situé en bordure du parc national des Virunga, dans la cité frontalière des Kassindi, la population garde espoir après le passage du gouverneur mercredi dernier. Ces quartiers restent profondément marqués par des arrestations répétées, des destructions des biens et même des pertes en vies humaines. Les habitants, confrontés à un quotidien difficile, attendent désormais des actions concrètes de la part de l'autorité provinciale. Pour Serge Kalinga, coordonnateur de la nouvelle société civile dans la région, il est temps que le gouvernement s'implique réellement dans ces dossiers sensibles. Il s'exprime au téléphone de Marc Marofimbo.
De la part du gouverneur de province, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons besoin de voir le gouverneur s'impliquer dans ces dossiers Congo et Asika. D'abord, prendre la décision de mettre à terme toutes les décisions prises par son prédécesseur afin de pouvoir autoriser ou de pouvoir suspendre la commission qui travaillait dans les dossiers Congo et Asika. Et de mettre en place une nouvelle commission afin de pouvoir tabler sur cette situation et de mettre fin à ces dossiers Congo et Asika. Nul n'ignore qu'actuellement, la démographie du poste frontalier de Kassindi continue toujours par s'élargir. La population naît du jour au lendemain et nous sommes en train de manquer là où nous pouvons héberger, se déplacer, qui nous viennent des Goma, qui nous viennent des Rutshuru et dans des parties occupées aujourd'hui par le rebelle du M23.
Rappelons que lors du dernier forum sur les tensions entre riverains et responsables du parc national des Virunga, une commission avait été mise en place par l'autorité provinciale. Éducation, la troisième édition du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOP s'est clôturée ce vendredi dans la capitale sans incident majeur. À la sortie des salles, plusieurs candidats interrogés par Radio Okapi ont jugé l'examen globalement abordable. Lors du lancement de cette preuve certificative, la ministre d'État en charge de l'éducation a appelé les parents à accompagner leurs enfants dans le choix de leur orientation scolaire à l'issue du cycle d'éducation des bases. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
Dans plusieurs centres de la capitale, les candidats et autorités scolaires affirment n'avoir connu aucun couac dans les déroulements du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP. La majorité des élèves interrogés estiment que l'examen était abordable malgré quelques questions jugées difficiles. Christian Kabangou, élève du lycée Madame de Sévigné, souligne avoir été surpris par certaines questions portant sur des matières non vues en classe.
L'examen s'est bien passé malgré que la mathématique était un peu difficile.
Sabrina Bokoté du collège Cardinal Etchou s'est dit avoir été partagée entre les questions difficiles et d'autres plus complexes.
On peut dire qu'il y avait juste de l'égalité entre les questions mathématiques, français et il y avait aussi un peu de culture générale.
Arsène Médilissé, Madame de Sévigné, estime que l'essentiel a été fait et appelle les parents à continuer de s'investir dans la scolarisation de leurs enfants qu'ils considèrent comme l'avenir de demain.
Aux parents, parents et aux autorités, je vous conseille de depuis leurs enfants d'aller à l'école parce que l'école c'est...
Pour sa part, la ministre d'État en charge de l'éducation nationale exhorte les éducateurs et parents à ne pas imposer leurs choix aux enfants.
Chers parents, chers éducateurs, accompagnez vos enfants dans ces choix.
Elle affirme par ailleurs que l'état d'insuspect permet au gouvernement d'améliorer le système éducatif national.
Polémique autour d'une décision ministérielle. La récente circulaire de la ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté continue de faire débat. Elle ordonne le maintien des filles enceintes dans les établissements scolaires, une mesure qui divise l'opinion. Pour certains, c'est une avancée majeure contre l'injustice sociale et l'exclusion. Pour d'autres, au contraire, l'exclusion des élèves enceintes constituait une forme de sanction éducative nécessaire. Quelques Kinois ont réagi à ce sujet. Ils sont au micro de Rachel Kessimbango.
Je suis totalement d'accord avec cette circulaire du secrétaire général à l'éducation nationale parce que nous voyons aussi les taux d'analphabétisme chez les jeunes filles et la déperdition scolaire sont élevés. C'est parce que lorsque une jeune fille est enceinte, il a la honte. Il y a même des écoles qui prennent des décisions que cette fille ne doit plus continuer les études alors que c'est faux.
On a toujours milité pour que les filles ne soient pas discriminées parce qu'on dit fille-mère. Mais on ne dit pas garçon-père. Donc, il faut que le droit soit pour tout le monde. Il ne faut pas qu'il y ait des discriminations, qu'il y ait des inégalités. Quand une fille tombe enceinte et qu'on puisse la radier de l'école, ça signifie que vous brisez aussi son avenir, sa carrière. Donc, il faut laisser la fille évoluer pour lui donner la possibilité aussi d'évoluer comme les jeunes garçons. Parce que l'acte a été fait entre un homme et une femme.
Je suis contre parce qu'il y a certaines filles qui se méconduisent à la maison. Les parents peuvent beau parler, mais l'enfant n'écoute pas. Et quand l'enfant tombe enceinte, pour moi, c'est comme une conséquence à la désobéissance des parents. Pour moi, la fille devait assumer ses responsabilités. Elle devait arrêter les études jusqu'à ce qu'elle accouche et puis elle va continuer les études.
Restons sur le même sujet. Exclure une fille enceinte de l'école, c'est lui infliger une double peine. C'est par ces mots que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a réagi à une question d'un journaliste hier jeudi à Kinshasa, lors du traditionnel briefing de presse. Le ministre a rappelé que la République démocratique du Congo est engagée à respecter plusieurs conventions internationales, notamment celles qui interdisent toute forme d'exclusion des enfants du système éducatif. Santé lutte contre la poliomyélite au Congo central. La première phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite a été lancée hier jeudi dans les 31 zones de santé de la province. L'opération se déroulera du 17 au 19 juillet. C'est le ministre provincial ad intérim de la Santé qui a donné le coup d'envoi de cette campagne dont l'objectif est clair, éliminer le poliovirus sauvage et ses variantes après la détection d'un cas dans les territoires de Mwanda. À cette occasion, Thomas Kiakonkwa a salué la vision du président de la République en matière de couverture santé universelle qu'il considère comme une réalité palpable au Congo central. Les précisions avec Nana Plurich Mambou.
La stratégie adoptée est les porte-à-porte. Et ce sont 989 809 enfants de 0 à 59 mois qui sont attendus pour cette campagne. Ces enfants reçoivent chacun deux gouttes orales du vaccin anti-polio pour augmenter leur immunité face à la poliomyélite qui continue à circuler dans certaines provinces, dont le Congo central, où un cas a été détecté. Il faut donc lutter contre la circulation des poliovirus sauvages. Dans son discours, le ministre a dit intérim de la santé, Thomas Kiakokwa, a demandé aux parents et gardiens d'enfants de faciliter la tâche aux prestataires pour le bien des enfants. Il a profité de la circonstance pour remercier les partenaires dont l'OIM, UNICEF, OMS et autres pour leur implication dans la lutte contre la poliomyélite. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Lutte contre la pêche illicite au Nord Kivu. 200 alvins fumés ont été saisis au point de contrôle de Vimba ou avant d'être publiquement détruits à Kassindiport par le service compétent. Cette opération a été menée par les équipes de l'ICCN avec le soutien soutien du comité des pêcheurs, de la GRIPEL, du service de l'environnement et de la société civile locale. Objectif, renforcer la lutte contre la pêche illégale sur le lac Édouard, notamment dans la zone des Cassini-Ports, et freiner le trafic d'alevin dans la région, précise le parc national des Virunga. Les précisions avec Denise Loukesso.
Grâce à cette collaboration renforcée, plusieurs opérations ont été réalisées ces dernières semaines, indique le PNV. C'est notamment la saisie d'une pirogue utilisant un filet électrique sur la rivière Loubiria, la destruction d'une vingtaine d'alevins fumés à Vimbao, et parallèlement, des actions de sensibilisation auprès de communautés locales ont été également menées. La réglementation de la pêche constitue un enjeu crucial pour la région, dit le PNV. En effet, les ressources halieutiques du lac Édouard contribue de manière significative à la sécurité alimentaire des populations riveraines. Dommage de constater qu'à cause de la pêche illicite, la quantité de poissons a fortement diminué, exposant de nombreuses familles au risque de famine et poussant certains pêcheurs désespérés à franchir illégalement la frontière lacustre entre la RDC et l'Ouganda. Plusieurs d'entre eux sont régulièrement arrêtés et leurs pirogues confisquées. En renforçant la surveillance sur les lacs, il est possible d'inverser la tendance et de replacer les lacs Édouard au cœur du bien-être des populations locales, renchérit les PNV.
À Kinshasa, une journée de socialisation de l'agenda femmes, paix et sécurité s'est tenue mercredi dernier à l'initiative d'ONU Femmes et de l'ambassade de Norvège. L'objectif était double, présenter les avancées du projet financé par la Norvège depuis 2021 pour une durée de 3 ans en soutien à la mise en œuvre de la résolution 1325 de l'ONU et dévoiler les grands piliers de la stratégie d'ONU Femmes pour la période 2025-2029. Les précisions avec Babel Mpongo.
Le projet est parti du constat qu'en RDC, les femmes sont les principales victimes des conflits. Pourtant, elles sont absentes des cercles de décision, d'où l'engagement de la Norvège aux côtés de ONU Femmes et du gouvernement dans la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. John Age Oslebo, ambassadeur de la Norvège.
Toute expérience partout dans le monde montre que la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale est essentielle pour obtenir un développement durable et un paix soutenable.
Il y a eu des avancées dans ce domaine, souligne Sylvie Adou, chef du pilier Femmes, Paix et Sécurité à ONU Femmes.
Les femmes et les jeunes qui participent de manière significative au processus de paix. Et nous avons les institutions et les mécanismes nationaux et provinciaux qui sont renforcés pour un suivi efficace du plan d'action national 1325.
Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, appelle les femmes à se mettre à l'avant pour une plus grande représentation et pour sensibiliser les hommes sur la masculinité positive. Il appelle aussi les médias à y contribuer.
Nous avons fait des progrès, mais pas assez, parce que c'est presque le 10e de l'Assemblée nationale qui compte des femmes. On a la possibilité de faire davantage, surtout que la femme constitue la majorité de la population chez nous.
Plusieurs représentants des médias ont pris part à cette rencontre.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. La décision a été prise lors du Conseil des ministres du mercredi 16 juillet à travers un projet de loi qui sera transmis à l'Assemblée législative de transition pour examen. Désormais, c'est le ministère de l'administration territoriale qui sera chargé de l'organisation des élections, une mesure que le ministre Émile Zerbo a inscrit dans le cadre de la refondation de l'État et de réformes institutionnelles en cours. Selon lui, cette décision vise à réduire les charges de fonctionnement de l'État, la CENI étant jugée trop coûteuse avec une subvention annuelle de 500 millions de francs CFA. Il affirme également que cette réforme permettra de limiter les influences politiques et de renforcer le contrôle souverain sur le processus électoral.
L'invité.
En République démocratique du Congo, un tournant majeur dans le système éducatif. Les filles enceintes sont désormais autorisées à poursuivre leur scolarité. C'est ce que stipule une note circulaire du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté datée du lundi 14 juillet. Le document met fin à toute mesure d'exclusion des élèves enceintes tant qu'elles expriment leur souhait de rester à l'école. Mais cette décision, saluée par certains, suscite aussi des vives réactions. Pour en parler, nous recevons le professeur Roland Vélé Mukelenge, docteur en philosophie politique et diplômé en sciences politiques des universités coréennes. Il estime que cette mesure devrait tout simplement être retirée. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Professeur Roland Vélé Mukelenge,
Kelenge, bonjour.
Bonjour.
Professeur, selon une note circulaire signée le lundi 14 juillet, les filles enceintes seront désormais maintenues dans leurs établissements scolaires. Comment appréciez-vous cette décision?
Il s'agit d'une décision apparemment salutaire pour les filles mères, mais si vous en faites une analyse dialectique, vous vous rendez compte très vite qu'il s'agit d'une décision suicidaire. Suicidaire dans la mesure où non seulement ce n'est pas que on refuse la stigmatisation, mais au contraire, au nom de la stigmatisation, on impose la stigmatisation. C'est ça les dessous de la carte de cette décision. Pourquoi? Tout simplement parce que les élèves à l'école sont régis par des normes, par des règlements. Et tout élève qui commet une faute morale doit être puni. Et une élève qui est enceinte à l'école, n'est-ce pas, a violé les normes de l'école. Et donc, dès qu'elle viole les normes de l'école, elle doit être sanctionnée. Et donc, il n'y a pas à dire, voilà, parce qu'elle a fait ça, et les filles, tenant compte de sa situation des filles, il faut la garder à l'école. Non, l'école, je l'ai dit, a une dimension hautement morale. Au-delà de l'organisation matérielle et tout, c'est la dimension morale qu'il faut préserver. Et les autorités politico-administratives, qui sont l'État qui est l'organisateur de l'enseignement national, doivent justement veiller à ce que cette dimension morale soit maintenue. Et cette décision vient justement saboter les efforts éthique dans notre pays.
Mais il n'y a jamais eu de loi qui interdise de renvoyer les filles enceintes. D'après vous, pourquoi les chefs d'établissement scolaire mettent-ils à la porte des filles enceintes quand on sait que certaines sont victimes de viols et autres du mariage précoce?
Non, mais d'abord je vous dis que ce n'est pas seulement qu'on mette les filles dehors, mais il y a une auto-exclusion. Déjà sur le plan moral, les filles elles-mêmes parfois se disent, dans mon état je peux plus. Elles partent, ça c'est un cas. Mais il y a d'autres cas aussi pour lesquels l'école doit interpeller parce que l'école doit veiller sur la moralité et de la fille et des autres qui sont là et même du personnel. Donc, c'est une mesure qui est tout à fait normale. Ça n'a rien à voir avec la discrimination.
L'ONG Foyer de développement pour l'autopromotion des personnes indigentes estime que l'application de cette mesure devrait être suspendue. Enfin, qu'en pensez-vous?
Ah oui, bien sûr que oui. Mais il y a des partenaires éducatifs. L'État ne fonctionne pas seul. Il y a des confessions religieuses, il y a des ONG, il y a plusieurs partenaires. La ministre devait convoquer les partenaires, discuter avec eux pour voir les conditions de faisabilité. Et la loi prévoit l'éducation non formelle, la création des écoles spécialisées. Et ça, c'est tout à fait important. Il faudra que l'on puisse placer ces élèves. Il faut d'abord suspendre, moi j'ai dit bien suspendre, leur participation aux activités scolaires, plutôt le faire revenir plus tard. Ça c'est important pour sauvegarder ce qui nous reste à sauvegarder. Et ça c'est très très important. Et à la fin, on doit analyser pour voir dans quel contexte on peut le prendre, dans quel contexte on peut prendre telle décision ou telle autre. Mais j'ai comme l'impression que la ministre a fait ça seule.
Mais pour la NAPECO, donc l'Association Nationale des Parents d'élèves et étudiants du Congo, cette décision est la bienvenue car elle place les élèves, filles et garçons, sur les mêmes pieds d'égalité. Êtes-vous d'accord avec elle?
Je ne suis pas d'accord et j'ai dit, il faut dépolitiser toutes ces associations. Je crois que ces associations, c'est des déclarations graves. Alors je me demande s'ils sont vraiment des associations des parents. Parce que des parents conscients ne peuvent pas faire passer ce genre de décision.
Pourquoi pensez-vous que les élèves enceintes devraient être marginalisés?
J'ai dit que c'est pas de la marginalisation, c'est la sanction. C'est la sanction. Il faut sanctionner un garçon qui se bat à l'école, qui frappe un autre, mais il est renvoyé dans des écoles sérieuses. C'est pas de la marginalisation. Une fille qui est grosse à l'école, c'est des antivaleurs. On ne peut pas parler de marginalisation. Voilà, c'est ça le problème. Il faudrait pas qu'on mette la femme comme un être qu'on doit traiter de manière spéciale. C'est un humain, c'est une élève comme toutes les autres élèves.
Donc un élève garçon,
oui,
qui enceinte une fille, quand l'école est au courant, on le chasse de l'école.
Alors, je précise, ici, ce qu'on sanctionne souvent, c'est quoi? C'est les conséquences de l'acte. Vous comprenez? Les filles doivent avoir une conscience éclairée pour dire attention, ce que je suis en train de faire, les conséquences vont porter sur moi-même. Parce que quand on fait les rapports sexuels, on est dans des lieux secrets. mais les conséquences tombent sur la fille, malheureusement. Et donc, la fille doit prendre conscience que j'ai une grande responsabilité et je ne dois pas faire n'importe quoi, parce que j'essaie de sanctionner. C'est une sanction, ce n'est pas une marginalisation.
Professeur Roland Vele Mukelenge, professeur des universités, je vous dis merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est tout le professeur Roland Vele Mukelenge. Il s'exprimait sur la récente décision du ministère de l'Éducation nationale autorisant les filles enceintes à poursuivre leur scolarité en RDC, une mesure qu'il juge contestable et appelle à retirer. Un entretien conduit par Blaise Shindani Kambala. C'est la fin de cette édition des 18h sur Radio Capi, à la mise en onde de Pierre Diassinois. Présentation assurée par Gisèle Cage sous la coordination des juges de Mister Bilanda. Merci de votre fidélité. Pour ne rien manquer de l'actualité, suivez-nous en temps réel sur nos réseaux sociaux Facebook et X ou rendez-vous sur notre site web www.radiocapi.net. Merci de votre écoute et à très bientôt sur Radio Capi.